On continue notre petite étude qu'on est en train de faire présentement depuis plusieurs semaines. Je vous ai parlé des bénédictions qu'on a eues en Jésus. Quand tu viens à lui, il y a ceux qui ont manqué ça, je vous encourage à aller sur mon site, publicationévangélique.com. Ils sont tous là et prêts, vous pouvez les écouter, regarder les versets. Plein de choses que Dieu a entrepris, au moins une douzaine de messages, que des choses que Dieu a promis puis qu'il est en train de faire dans chacun de nous. C'est des bénédictions de Dieu à cause qu'on a donné notre vie au Seigneur. On s'est engagé à le suivre, il nous bénit. Là, à partir de la semaine passée, on a commencé un autre parti, une autre direction d'un message, c'est quelles sont les attentes de Dieu à notre égard? Est-ce que Dieu s'attend de quelque chose de nous en retour? Lui, il nous a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Il nous l'a révélé, la connaissance du Seigneur Jésus, puis de son œuvre, ses enseignements sont tous là, écrits dans ce livre-là. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être sauvé, puis qu'on puisse marcher dans la vie chrétienne, en relation avec lui, puis équipé de tout ce qu'il veut nous donner. Sauf que, est-ce que Dieu nous a dit, je vous donne ça, puis là, à cette heure, je vous demande rien en retour. Vous n'avez rien à faire. Puis on a vu la semaine passée, dans le premier message de cette nouvelle série-là, c'est qu'on devait devenir des imitateurs de Dieu. Autant que Dieu a donné son fils et que son fils a donné sa vie, nous aussi, Satan, qu'on se donne à lui. Il a dit qu'il fallait renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. Il nous a dit qu'il fallait marcher selon sa parole. Toutes sortes de points comme ça qui nous amènent à nous renier. Wow, j'ai des responsabilités en tant que chrétien. Parce qu'il m'a sauvé, il m'appelle en retour à ce que je renonce à moi-même, puis je m'engage à le suivre, pas le servir. Puis là, c'est basé en même temps sur un passage qui dit, de Pierre qui dit, vu que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, là, il dit, c'est pourquoi il faut mettre tous nos efforts par la suite. Faut mettre tous nos efforts à joindre, à cause qu'il nous a déjà tout donné, à joindre à notre foi. Puis là, il parle de points qu'il faut rajouter. Puis le point aujourd'hui que je vais parler, c'est de la foi. Le chrétien et ses responsabilités. On va regarder le premier point qui est le plus important pour tout le monde quand tu es chrétien. Parce que il y a beaucoup de plaisir dans la vie chrétienne, le plaisir de se rencontrer, de chanter, la vie normale, mais là, on va voir le premier point en commun qu'on a tous, puis c'est nécessaire pour notre salut, puis qu'on a tous, mais qu'il faut travailler là-dessus, c'est notre foi. On va regarder le premier point, c'est le point de départ qu'une personne doit avoir pour débuter sa vie dans le Seigneur, c'est la foi. Dans Hébreux 11:6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui soient assis dans l'Église puis qu'il n'y ait pas de foi? Pas la foi que Dieu demande. On peut être assis à l'Église parce que c'est un club social. C'est comme un club social. Tu vas voir un psychologue aujourd'hui, je te conseille de te joindre un groupe à quelque part, puis les relations avec les autres, ça va t'aider moralement. Il y en a qui peuvent prendre l'Église juste comme un club social. Il y en a qui peuvent prendre l'Église juste parce que mon arrière-grand-père allait à l'Église, mon grand-père allait à l'Église, moi, mon père allait à l'Église, puis moi, je vais à l'Église, mais il ne sait pas pourquoi qu'il y va, mais il y va par tradition. Ça se peut qu'il y ait du monde avec les générations qui passent, là, qui ne savent même pas pourquoi qu'ils sont à l'Église. Ils sont contents d'être à l'Église. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une joie ou un bien-être parce que c'est tout du monde honnête, c'est tout du monde fin, c'est tout du monde poli. Ils m'accueillent en rentrant puis c'est plaisant d'aller à l'Église. Mais est-ce, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a la foi? Dans le verset dans Hébreux, je viens de lire, là, c'est « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu Quand ils regardent les gens, ils ne regardent pas rien que si les gens s'aiment, si les gens ils sont fins, si les gens parlent bien aux autres, s'ils sont gentils, s'ils sont généreux. Ça, c'est tous des points secondaires. Le premier point que tous les chrétiens doivent avoir, c'est la foi. Vous pouvez dire « Amen » n'importe quand. Parce qu'il dit la raison dans ce verset-là. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Fait que la première raison pourquoi qu'on est assis ici, c'est parce qu'on croit que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? En plus, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui donne ses cadeaux à ceux qui le cherchent. C'est qu'il veut pas juste qu'on sache qu'il est là. Il veut qu'on sache qu'il y a des cadeaux à nous donner. Est-ce qu'il y en a qui veulent les cadeaux de Dieu? Amen. Les gens aujourd'hui ils utilisent le mot foi comme un terme large. On appelle foi que ce soit à partir d'une simple croyance ou jusqu'à une ferme conviction. Tu peux le prendre dans bien des je crois que mettons je passe pas en dessous d'une échelle, c'est dangereux. Il y a la foi, il y a une croyance là. Pour certaines personnes, c'est la foi. Ils vont se donner plein de raisons d'avoir de la foi dans quelque chose ou croire que son grand-père est mort et son grand-père est en train de l'aider. C'est des fois, ça. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a des fois, la foi est démontrée par une simple confession. « Ah, je l'ai dit que Jésus, c'est le Seigneur. » Puis il y en a d'autres, ça va être juste qu'une démonstration que la foi, par des œuvres grandioses, la personne se donne par la foi puis avouer des choses, la main de Dieu dans sa vie. C'est pris à... Ben mince ou bien large, ça va jusqu'à là l'idée du mot foi. Mais le mot foi, il faut le savoir, il est utilisé à toutes les croyances. Les catholiques croient en la Sainte Vierge, les bouddhas croient au Bouddha, puis les musulmans croient à l'autre, à Allah ou à un autre, puis l'autre, il croit en d'autres choses, puis... Il y a des religions qui ont 1000 dieux, fait qu'ils n'ont de la foi en masse. La foi est partout. T'as même la foi que quand tu vas embarquer dans ton char, que tu vas te rendre chez vous, tu te casses même pas la tête, à moins que tu sais que c'est une minoune, puis t'arrêtes de lâcher. Mais t'embarques dans ton char avec confiance, puis tu t'inquiètes même pas, t'as mis ta confiance dans ton portefeuille, puis dans ton compte de banque, parce qu'il y a bien des zéros avant le chiffre. Oui, mais l'idée de la foi peut être appliquée à plein d'affaires. Mais dans la Bible, les attentes du Seigneur, parce qu'au début de la réunion, j'ai dit, est-ce que le Seigneur a des attentes envers ceux qui lui appartiennent? Les attentes du Seigneur au niveau de la foi, c'est pas de la foi en n'importe quoi. Premièrement, Jésus le dit dans Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Là, ça vient de donner, quelles sont les attentes de Dieu? Bien, pour ma foi, parce qu'on parle de la foi, il veut qu'on apprenne à mettre notre foi en Dieu. Jésus parlait à ses disciples. Parla du monde qui connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était tous des Juifs, du monde qui avait déjà été dans la synagogue souvent. Ils ont entendu des enseignements de toutes sortes de l'Ancien Testament. Mais Jésus a renié le focus sur la foi. Nous sommes tous appelés à mettre notre foi en Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. En Dieu seul. Parce que, comme je vous disais tantôt, il y en a qui vont prendre le Dieu que, selon leur ressemblance ou le Dieu selon leur imagination. Non, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu révélé à travers Jésus-Christ. Mais c'est pas, ça ne s'arrête pas là pour la foi. Nous, les chrétiens, nous sommes aussi enseignés à garder la foi qui a été transmise aux saints. On parle de la sainte doctrine. Dans Jude 1, verset 3, ça nous dit, « Bien-aimés, Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sentis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est quoi cette foi-là qui a été transmise aux saints? C'est la sainte doctrine, les enseignements. Les apôtres ont mis par écrit les enseignements de Jésus et des apôtres, puis des révélations de l'Apocalypse, c'est tout écrit là-dedans. Puis la Bible appelle les chrétiens à combattre pour la foi. Quand tu combats pour la foi, oui, là, il faut que tu commences à te rire, je combats pour le vrai Dieu, puis je combats aussi pour la parole de Dieu. Ça a été transmis aux saints, puis il nous exhorte. En tant que chrétien, c'est une des attentes de Dieu qu'on se mette à se battre pour défendre ce qui est écrit là-dedans. Parce que c'est la parole de notre Dieu. Si on continue ce verset-là, il donne la raison pourquoi que les chrétiens doivent se battre pour cela. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est des impies. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. La dissolution, c'est de la débauche sexuelle. Dans ce temps-là, il y avait des églises qui par les enseignements de faux prophètes, de faux docteurs, ils étaient dans les églises, puis le monde vivait dans la débauche dans l'église. Des parties. Puis ils ont changé la grâce de Dieu en vivant tout croche. Puis ils ne suivaient pas ce qui était écrit là, puis là, il dit, commencez à vous battre pour ce qui est écrit là-dedans. C'est la foi qui a été transmise, puis il faut s'assurer qu'on conserve ce qui est écrit là, sans en ajouter, sans en enlever, voyez-vous. Puis il renie notre maître, notre seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Par nos œuvres, par nos manières de vivre, on peut être en train de renier ce qui est écrit là-dedans, en faisant le contraire. Se battre pour l'Évangile, se battre pour la foi, c'est de vouloir la mettre en pratique. Amen. Et après ça, quand tu as l'occasion, t'en parles aux autres. C'est de même qu'on défend ce qu'il y a là. Tu verras pas, c'est rarement arrivé que Jésus apparaisse, commence à s'ostiner avec les autres qui sont dans notre siècle. Bien rare. Mais il s'attend à ce que nous, on prenne position. On est la colonne et l'appui de la vérité. On est là pour défendre ce que Dieu nous a transmis. Défendre la foi, se combattre pour la foi, c'est de rester fidèle à ce qu'il y a là-dedans. La Bible nous révèle, parce que là on parle de la foi encore, la Bible nous révèle qu'il y a des différences aux yeux de Dieu pour évaluer la foi quand il nous regarde. Jésus l'a démontré quand il était sur la terre. Puis on le voit dans les enseignements qu'il y a là-dedans. La Bible, elle parle de ceux qui ont une foi morte. T'as beau savoir que Dieu il est sauveur, qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis dans Jacques 2,26, Jacques il dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ça veut dire que tu peux penser que tu as la foi, mais si tu vis pas ta vie chrétienne comme c'est supposé, tu es en train de travailler contre Dieu, travailler contre le Saint-Esprit. Tu es en train de pas te défendre la foi, tu es en train d'encourager la rébellion contre ce qui est écrit. Puis les gens qui n'ont pas les œuvres qui vont avec pour démontrer qu'ils ont la foi, mais la Bible appelle ça une foi morte. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de condamner personne, c'est de vous exciter à avoir une foi vivante, une foi qui est dans une foi qui marche dans le Seigneur. Un autre beau passage, pour faire ça rapide, il y a ceux qui ont une faible foi. C'est dédié par Jésus. C'est dédié par les apôtres aussi. Comme là, dans ce passage-là, dans Romains 14:1, ça nous dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Fait qu'on peut avoir la foi, une faible foi. Puis Dieu le voit, puis il nous dit d'accueillir même les faibles. Il y a ceux qui... Puis faible dans ce passage-là, c'est être faible, être sans force, sans puissance. Fait qu'une foi qui n'a pas de force, là, c'est une foi qui, peut-être qu'il y a un doute de temps en temps, peut-être qu'il est pas sûr, peut-être, il sait que Jésus est mort, mais dans sa vie de tous les jours, il n'y aura pas des victoires, une par derrière l'autre. Ça va être, il subit des défaites, puis il sait pas comment s'en sortir, mais il a la foi que Jésus sauve, il s'accroche. Puis ça s'appelle une faible foi, puis être même malade dans la foi. Parce que Dieu veut pas qu'on reste dans un état de faible dans la foi. C'est une foi malade. Le mot que là, il veut dire malade, être malade, le mot faible. Une foi malade, c'est que Dieu l'accueille pareil, mais il veut pas qu'il reste malade. Vous allez voir tantôt de ce que je vais amener là-dessus. On continue avec une idée. Il y a ceux qui ont peu de foi. Il y a aussi ça qui a été dit par le Seigneur dans Matthieu. Pourquoi avez-vous peur, genre de peu de foi? C'est des gens qui savaient que Jésus était le Sauveur. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des affaires, mais la foi est pas forte. Mais il y en a quand même un peu. Ils sont pas rejetés par le Seigneur. Ça se peut que moi je pense que les chrétiens qui s'inquiètent, les chrétiens qui sont bouleversés ou virés à l'envers parce qu'il arrive des événements négatifs dans leur vie, c'est une faible foi. Mais Dieu nous a accueillis quand même, mais Dieu veut qu'on réalise qu'il y a cette position-là, puis Jésus s'est pas gêné de le dire à ses disciples. Puis est-ce qu'il nous dira la même chose? Il y a ceux qui ont une grande foi. Dans l'Église, il y en a toutes les sortes. Il y en a des faibles, il y en a des peu de foi, puis il y en a qui ont une grande foi, puis il y en a qui ont une foi morte. C'est dans l'Église, ça. C'est donné pour qu'on le réalise, ces enseignements-là. Ceux qui ont une grande foi, eux autres, c'est quelques exceptions. Ils marchent par la foi, puis ils voient des miracles, puis ils voient des choses arriver dans leur vie parce qu'ils ont une grande foi. Puis ça a été vu dans la parole, dans Luc, que le Seigneur, au moins à deux passages, il a déclaré que le centenier ou bien la femme qui voulait que sa fille soit guérie, tout ça, mais il a dit qu'il avait une grande foi. On prend l'exemple du centenier. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, puis se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, j'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Fait que c'est tout un honneur de se faire déclarer comme ça par le Seigneur. Puis il pourra dire la même chose de chacun de nous, en autant qu'on obtient ou qu'on cherche à avoir cette foi-là. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tantôt, là, parce qu'on n'est pas là pour juger les autres. Y a-t-il une faible foi? Y a-t-il un peu de foi? Ou s'il y a beaucoup de foi? On n'est pas là pour juger les autres. C'est dans le but de s'auto-évaluer. Il ne faut pas oublier que Dieu y a accueilli aussi les faibles dans la foi, ceux qui ont une foi malade. Dans Romains 14, 1, ça nous le dit. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ça dit, discutez pas ses opinions. Un qui va pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui mange pas. Puis celui qui mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Fait que si Dieu a accueilli les faibles dans la foi dans l'Église, il faut que je sois capable moi aussi d'y faire accueil puis de les accueillir. On n'est pas là pour critiquer les faibles dans la foi, on est là pour les aider à grandir dans leur foi. Dieu nous parle de la foi qu'il recherche en nous. Il recherche à ce qu'on ait une foi ferme, solide, une base, une fondation, avec fermeté. C'est le même qui veut tous nous amener, pas juste un peu, pas juste une faible, une foi forte. Il veut nous amener là-dedans. Dans Hébreux 11, 1, ça nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Puis le mot assurance, là, c'est le mot base, fondation. C'est une ferme fondation. Quand tu bâtis ta vie sur la foi, tu crois en Dieu, tu crois en sa parole, tu chasses de toi tous les doutes. Tu crois, puis tu appliques ta vie pour bâtir ta vie conforme à ce qui est écrit, parce que tu y crois, puis quelqu'un t'en parle, tu es prêt à la défendre, la parole, parce que tu es solide, tu es ferme dans la foi. Puis c'est cette foi-là que Dieu veut nous amener. Il nous a accueillis en faible foi. Peut-être qu'on a accepté le Seigneur, on avait une faible foi, mais il veut nous amener à avoir une foi inébranlable, une foi ferme, une foi solide. Là, il dit, la foi, c'est une ferme assurance, puis c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire, une foi, c'est pas juste de la théorie. C'est une vie mise en pratique. Tu démontres ce que tu crois. Tu l'appliques à ta vie. Il y a des, quand on a, le système a été changé ici au Canada, avant on marchait avec le système anglais, puis on a tombé sur le système métrique. Il y a eu un changement à partir d'un certain moment. Les mesures, ces contenants sont écrits en litres, en litres au lieu d'être en gallons, puis c'est écrit en centimètres au lieu d'être en pieds, puis en pouces. Tout était converti à un nouveau système. Mais quand on vient au Seigneur, il veut faire la même affaire. Notre ancienne vie, c'était, on pense à notre manière, dans nos buts, puis on marchait dans le péché, puis on riait de ça. Jusqu'à temps qu'on se repente, qu'on réalise que Jésus est mort, puis on lui donne notre vie, puis maintenant, son attente au Seigneur, c'est qu'il veut nous convertir à un nouveau mode de vie. Une nouvelle vie est donnée dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit veut nous amener à l'appliquer en pratique, qu'on démontre notre foi en pratiquant ce qui est écrit. C'est de même. Son attente est ce qu'on devienne tous comme Jésus, un imitateur de Jésus, un imitateur de l'apôtre Paul, des gens consacrés qui se donnaient dans l'œuvre, puis sont solides, là, ils défendaient la parole. Il veut nous amener être comme cela. Il y a un bout même dans la parole, il dit, vous devriez être tous des professeurs, puis vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses de base. Mais on est tous appelés à comprendre, puis être capable de défendre, puis en l'appliquant à notre vie. Parce que la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu sais, tu ne vois pas Dieu, puis tu es capable de mettre ta confiance en lui au point que lui vienne faire des choses dans ta vie qui vont démontrer que tu l'es vraiment dans la foi. Il ne faut pas oublier que la foi peut grandir. Peu importe la grosseur de la foi qu'on avait quand tu as accepté le Seigneur ou que tu as maintenant. Peu importe la foi que tu as rendue, que tu es rendue aujourd'hui, elle peut encore grandir. On peut devenir plus ferme, plus fort, plus grande foi. C'est ce que Dieu a comme attente pour nous. Il ne nous critique pas en disant qu'on a une faible foi. Il le dit pour que l'autre réalise, puis que là, il se mette à croire à plus, qu'il mette à vouloir plus. Il faut aspirer à voir que ça change. Dans Romains 10, 17, ça nous le dit bien. Or, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus qu'on va laisser rentrer ces paroles-là dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre être, là, plus qu'on va pouvoir vivre ce qu'il y a là. On l'a vu la semaine passée, hein, quand on parlait de bâtir sur le roc ou sur le sable. Il dit, celui qui met ces paroles-là en pratique, la pluie va venir, les torrents vont venir, ça va jeter contre la maison, puis elle va rester debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Mets en pratique la parole, crois-la, puis lis-la, puis apprends-la, puis applique-la, puis tu vas devenir de plus en plus fort dans le Seigneur. Ta foi va être grande, tu vas vivre des épreuves incroyables, puis tu vas être encore debout. Puis ceux qui ne croient pas à cela, puis qui négligent la parole, puis ils bâtissent ça sur le club social, sur le « on est là parce que mon grand-père était là », ils ne comprennent pas, ils vont arriver des épreuves dans leur vie, puis ils n'ont rien pour s'appuyer. Il dit « la maison va s'écrouler, puis sa ruine va être grande ». Mais la foi vient de là, puis si on y croit, on veut défendre, pas juste la défendre, on veut la mettre en pratique. Mais il s'attend, Dieu, à ce que notre foi grandisse dans ce qu'il nous a donné comme héritage. Parce que c'est un héritage. Toutes nos promesses sont écrites là-dedans. C'est un héritage, c'est un testament. Dans un testament, dans le Nouveau Testament, un testament, c'est quand la personne meurt, tu hérites. Jésus est mort, puis son héritage est tout écrit là-dedans. Puis on peut l'obtenir, puis on peut en subir les effets si on y croit. Est-ce que des hommes et des femmes qui croient à la parole de Dieu ici. Il faut rester attaché à cela, frères et sœurs. Les premiers chrétiens, ils ont vu des miracles. Hein? Ils n'ont vu des miracles, puis ils n'ont même vécu quand les 12 ont été envoyés après les 70. Puis ils étaient avec Jésus, puis à un moment donné, ils ont dit à Jésus, « Seigneur, dans Luc 17, 5, Seigneur, augmente-nous la foi. » Il avait vu des miracles, mais il avait encore besoin de plus de foi. Il y en a-tu ici qui ont encore besoin de plus de foi? Moi, j'en ai besoin de plus encore. Puis là, le Seigneur lui dit, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Il dit, les disciples disent, augmente-nous la foi. Jésus leur a donné une parole pour leur dire, si vous auriez la foi, comme que vous êtes supposé, vous pourriez vivre cela. Mais ça, c'est une grande foi. Mais il leur a dit ça comme vision à atteindre, comme but à rechercher. En tant que chrétien, c'est une attente de Dieu qu'on arrive à être dans cette foi-là. On veut-tu devenir dans cette foi-là? Ça plaît à Dieu parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a déjà un peu de foi, on l'a accepté, le Seigneur. On est là pas pour rien parce qu'on y croit. J'espère que tout le monde croit que Jésus est mort pour eux, puis vous êtes fermes, que vous êtes sauvés à cause que Jésus il a accompli ce qu'il fallait pour qu'on puisse être sauvés. Si vous croyez ça, vous avez de la foi. Maintenant, il faut travailler à l'augmenter. Puis on ne se critique pas, là, on fait juste s'encourager. Comme Jésus, c'est un spécialiste de l'encouragement. L'apôtre Paul, il a témoigné dans la parole que la foi des Thessaloniciens avait fait de grands progrès. Puis en même temps, que leur amour pour les autres aussi avait augmenté. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu n'es pas appelé à rester au même niveau. Il faut qu'il y ait une croissance. Tu vois ça dans 2 Thessaloniciens 1, 3. Il dit, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès. Est-ce qu'on veut que notre foi fasse de grands progrès? Si on le veut, Dieu est capable de nous le faire, là, ce progrès-là, si on a cette attente-là. Seigneur, viens faire en nous ce progrès-là, nous faire progresser dans la foi. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Plus que les gens augmentent dans la foi, plus qu'ils vont augmenter aussi dans l'amour. Parce que si tu augmentes dans la foi, puis tu veux mettre en pratique la parole, mais ta foi grandit, puis là, la foi est aussi une démonstration de ce que tu crois. Fait que automatiquement, tu vas commencer à vivre l'amour pour les autres. Ton amour va grandir. Fait que je crois qu'on a tout à gagner de rechercher à avoir de plus en plus une grande foi. Que notre foi grandisse, qu'elle s'accroît. La foi morte, c'est une foi qui est démontrée par les œuvres. La foi forte, je veux dire, c'est démontré par les œuvres. Quand tu as une foi qui est forte, tes œuvres le démontrent que tu as la foi. Dans Jacques 2, 18, il nous dit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Puis l'un va dire, « Montre-moi la foi sans les œuvres, puis moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Est-il possible de démontrer sa foi sans les œuvres? Si tu n'as pas les œuvres, tu ne peux rien démontrer. C'est comme dire, tu ne seras pas capable de me le montrer que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres. Dieu veut voir en nous une foi qui est vivante, qui est démontrée par des œuvres. Je ne te dis pas que c'est nous qui faisons les miracles. Je ne parle pas nécessairement pour les miracles, c'est Dieu qui fait un miracle. Mais nous, notre foi, c'est de marcher selon la parole qui a été transmise aux saints. Puis Dieu va faire le reste à travers nous. Dieu recherche en nous une foi à l'exemple d'Abraham. Ça nous dit ça dans Jacques chapitre 2, verset 21. Ça dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu en obéissant à ce que Dieu venait d'y demander. Il a cru, il a obéi. Puis cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il y a un enseignement là-dedans. Là. Ce n'est pas sauvé par tes œuvres que ça nous dit dans les Éphésiens. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas être sauvé. Pas du tout. C'est par l'œuvre de Jésus. Tu es sauvé par Jésus-Christ, mais pour de bonnes œuvres. Il faut que tes œuvres démontrent ta foi. Parce que c'est de même qu'Abraham l'a démontré en obéissant à ce que Dieu lui a demandé. Fait que si quelqu'un croit en la parole de Dieu puis veut la mettre en pratique, il est en train de démontrer à Dieu qu'il croit. C'est une démonstration de ce qu'on croit. Il y a une différence, une grande différence entre la foi des chrétiens puis la foi des démons. Jacques, il répète ça aussi au chapitre 2, verset 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, puis ils tremblent. Les démons croient. Ils ont la foi en Dieu, mais ils n'ont pas la foi qui sauve, parce qu'ils continuent à désobéir. Nous, notre foi, c'est qu'on croit au point d'obéir. Il y a une grosse différence. Ce qui fait la différence, c'est que les deux, on a la foi. Nous, on a la foi, les démons aussi y croient. Ils ont la foi. Sauf qu'eux autres, ils n'obéissent pas, puis nous autres, on veut obéir. C'est ça la différence. Dieu a comme attente envers ses enfants qu'on démontre notre foi en pratiquant ce qui est écrit, en restant fidèle à ce qui est écrit. Paul, il nous a averti que des fois, nos œuvres peuvent témoigner le contraire de notre bouche. On peut dire « je crois en Dieu », puis dans ce qu'on vit, on est en train de faire exactement le contraire. Nos œuvres peuvent démontrer le contraire, qu'on n'a pas vraiment la foi. La manière qu'on va vivre, là, si on accepte des affaires dans nos vies qui n'est pas de Dieu, puis on le sait que ce n'est pas de Dieu, puis on continue, mais on est en train de démontrer que notre foi est bien beau de le dire, je crois, mais si dans la semaine on fait tout le contraire, on ne démontre pas qu'on croit. Dans Tite, au chapitre 1, verset 16, ça dit, « Ils font profession de connaître Dieu. » C'est quelque chose qu'ils peuvent affirmer qu'ils connaissent Dieu puis qu'ils aiment Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Ça veut dire, notre manière de vivre parle. Notre manière de vivre parle plus que ce qu'on peut dire de notre bouche. Mais c'est parce que des fois, on ne veut pas le voir, ce qu'on vit. Je ne critique pas, je fais juste le dire comme, il faut faire le point. Est-ce que notre vie est conforme à ce que Dieu demande? Est-ce qu'on le sait qu'on marche du mieux de notre vouloir, parce que, comme je vous disais tantôt, mettre tous vos efforts. Il faut s'appliquer en tant que chrétien. On a une responsabilité, Dieu a une attente envers nous, qu'on marche d'une manière qui est conforme à sa volonté. Pour prouver que nous avons la foi en Jésus, nous devons obéir à ses paroles. On voit ça dans Jean 8:31. Jésus le dit lui-même de sa bouche à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ça s'adresse à des croyants, ça s'adresse à des gens qui croyaient que Jésus était le Sauveur. Il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça reste encore dans la même ligne de pensée. Si tu restes dans sa parole, tu es vraiment un disciple. Si une église qui dit, là, la Bible est démodée, c'est plus à la mode, c'est passé date, c'était dans ce temps-là, si les églises pensent de même, puis là, ils prêchent toutes sortes d'affaires positives, des affaires plaisantes, puis ils ramènent pas qu'on se rajuste à ce qui est écrit là, mais c'est une église qui entraîne le monde dans le péché. C'est un club social. Sortez d'une église comme cela. Marchez dans une église où ce qui prêche la sainte doctrine. Nous avons intérêt en premier dans notre vie à travailler, à augmenter notre foi parce que, en réalité, là, tout ce qui vient de Dieu s'obtient par la foi. Dans 1 Pierre 1, 9, ça dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Oui, c'est par le sacrifice de Jésus. Mais il ne faut pas oublier ce qui est écrit dans cette phrase-là quand il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Par le moyen de la foi. C'est la foi à qui? C'est pas la foi à Jésus. C'est notre foi. C'est par le moyen de la foi qu'on saisit la grâce de Dieu. Puis il dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les chrétiens doivent rechercher à grandir dans la foi parce que c'est le moteur, c'est le centre de notre salut et grâce à ça. C'est grâce à Jésus. J'enlève pas sa part, mais moi, je parle de notre part, qui est une attente de Dieu. Il s'attend de nous qu'on marche par la foi jusqu'à la fin. Amen. Un autre verset dans Matthieu 21, 22 dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Fait que à ce moment-là, là, qu'il faut bien regarder, là, est-ce que quand on est en train de prier, qu'on demande dans un état qu'on est un gars obéissant à parole? Il dit, « Tout ce que tu demandes avec foi, c'est pas juste une conviction intérieure, c'est aussi une démonstration dans ta vie. Si un chrétien marche tout croche puis il pense qu'il va être exaucé dans toutes ses affaires, pense pas. » Il y a d'autres versets qui parlent de ça. Il y a un verset qui dit, « Pour ceux qui veulent aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal, qu'il recherche le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur se détourne contre ceux qui font le mal. » C'est écrit dans le Nouveau Testament, ce verset-là. Ça veut dire que notre manière de vivre est importante si on veut être exaucé. Notre foi est démontrée par notre pratique de tous les jours.
Amen.
Amen. Puis je finis avec un dernier verset. Nous sommes encouragés par le Seigneur à persévérer dans la foi afin d'obtenir ses promesses. Parce que des fois, les exaucements ne sont pas instantanés. Oui, il y en a des fois des exaucements instantanés, mais il y en a d'autres, des exaucements qui sont au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, 25 ans, 20 ans. Il y a des prières qui sont exaucées au bout d'un grand nombre de temps, puis il nous dit de persévérer dans la foi. Tu as foi en Dieu, puis tu crois en sa parole, tu persévères à mettre en pratique, tu persévères à t'attendre de Dieu parce que tu as la foi en Dieu, puis à un moment donné, Dieu exauce, parce que c'est ceux-là qui ont la foi et la persévérance qui vont hériter des promesses. Dans Hébreux 6, 11, nous désirons tous que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Fait qu'il faut pas lâcher, frères et sœurs, de continuer à espérer et à mettre notre foi en Dieu, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher dans aucun domaine de la foi. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Il y a plein de promesses pour le monde présent, puis il y a les promesses à venir qu'on doit recevoir. Puis c'est ceux qui vont avoir la foi et de la persévérance, ça veut dire qu'on lâche pas. On continue à mettre notre foi dans le Seigneur, puis on va continuer jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Amen. C'est ça qui sont les attentes du Seigneur. Je vous encourage à marcher par la foi, mais à marcher dans l'obéissance à ce qui est écrit, ça fait aussi dire que vous marchez dans la foi, puis continuez à vous attendre sur le Seigneur, puis le Seigneur nous regarde, puis il est content. Il est heureux de voir ses enfants qui s'accrochent, qui persévèrent, qui lâchent pas, puis à un moment donné, les bénédictions tombent dans nos vies. Amen. On va prier. Oui. Notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, On est ici, puis on croit en toi, Seigneur. Puis on veut te le dire qu'on croit en ta parole. On croit en tout ce que tu nous dis, Seigneur. Puis on veut marcher par la foi. Puis on le sait qu'on est faible. On le sait qu'on est peu de foi. On le sait que même des fois, on montre rien pour démontrer qu'on a la foi, que ça pourrait quasiment, on pourrait quasiment dire qu'elle est morte. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une grande foi. Ça demande d'augmenter notre foi. Et nous guider dans cette foi-là. Autant dans l'espérance pour les choses qu'on attend, autant aussi pour l'obéissance dans les choses qui sont écrites. Garde-nous dans la foi qui sauve et donne-nous de persévérer jusqu'à la fin afin d'obtenir toutes tes promesses. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.